Si Dieu est amour, il ne peut pas être solitaire. Et un Dieu solitaire, c'est un Dieu terrifiant.
Oui, absolument. C'est un Dieu terrifiant. Et c'est un Dieu malheureux, parce qu'il ne peut pas être heureux dans une solitude, surtout dans une solitude si grande et si éternelle.
Oui.
C'est impossible.
Et ce n'est pas une créature, quelle qu'elle soit, qui d'ailleurs est dans le temps,
oui,
qui peut satisfaire l'amour de Dieu.
Qui peut satisfaire l'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Or ça, dans l'Écriture sainte, que Dieu soit amour, que Dieu soit tendresse, que Dieu ait un cœur, qu'il ait des entrailles de tendresse, de miséricorde, ça c'est certain. Ça c'est dans l'Ancien Testament déjà. Par conséquent, lorsque nous apprenons que Dieu est Trinité, et comme le dit le symbole de saint Athanase, dans une forme géométrique mais extrêmement intéressante.
Ce symbole, il remonte à quand?
Ah ben, le symbole de saint Athanase, il y a des discussions pour la date du symbole de saint Athanase. Mais enfin, il a toujours été reçu dans l'Église comme étant de saint Athanase. Du saint Athanase qui était au 4e siècle au début, et qui a été l'initiateur du grand combat contre l'arianisme, n'est-ce pas? Alors il a défini la foi dans son symbole qui est admirable, il faudrait pouvoir le lire ici. Enfin, peu importe. Alors, donc, il dit, le Fils est du Père seul, non pas fait, ni créé, mais engendré. Voilà. Il y a un engendrement, une génération en Dieu. Et ensuite, l'Esprit Saint est du Père et du Fils, non pas fait, ni créé, ni engendré, mais procédant. Procédant, c'est-à-dire allant au-devant d'eux. C'est-à-dire qu'il est le mouvement d'amour, de reconnaissance, d'adoration, de tout ce qu'on peut dire, quoi, d'admiration, du Fils vers le Père et du Père vers le Fils. La complaisance du Père sur le Fils, c'est le Saint-Esprit. Donc là, nous voyons que le mouvement d'amour qui est en Dieu, qui fait le bonheur éternel de la Sainte Trinité, finalement, c'est le Saint-Esprit. Et cette notion de la Trinité est d'une importance souveraine lorsque nous allons parler de l'image et de la ressemblance de Dieu.
Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est Dieu ?
Qui prouve que Jésus-Christ est Dieu ? Eh bien, c'est l'ensemble de l'Évangile qui nous montre que Jésus-Christ avait les puissances de Dieu. Il avait le pouvoir créateur de Dieu. Il a fait un nombre considérable de miracles que Dieu seul peut faire.
Oui.
Quand il a rendu la santé aux malades, aux paralytiques, rendu la vue aux aveugles, rendu l'ouïe aux sourds, et quand il a ressuscité les morts. Il y a plusieurs résurrections de morts qui sont racontées dans l'Évangile.
Mais les saints aussi ont fait des miracles.
Oui, attention, mais au nom de Jésus-Christ, pas en leur nom personnel. Tandis que quand il a ressuscité Lazare, qui était mort depuis 4 jours, il a dit « Je suis la résurrection et la vie ».
Oui.
Et il y a des paroles dans l'Évangile de saint Jean où le nom « Je suis » c'est Jésus-Christ qui le prend lui-même à son compte. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Voilà, c'est le nom même de Yahvé.
C'est le nom même Yahvé. Et lorsque Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés, c'est à la fin du chapitre 8 de Jean, eh bien les Juifs ont très bien compris de quoi il s'agissait. Parce que voilà un homme qui prenait le nom de Dieu, qui se nommait par le nom de Dieu. C'était insupportable. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Et plus tard, au moment de la fête de la dédicace, les mêmes juifs, les autorités juives, les prêtres, les scribes, les pharisiens s'approchent de Jésus. Ils sont tout de même impressionnés par tous ces miracles qui ont été faits, par les foules qui commencent à le suivre, qui l'acclament déjà comme fils de David. Alors ils lui disent, mais enfin, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Alors il leur a répondu. Mais je vous l'ai dit. Et si vous ne croyez pas sur ma parole, croyez sur mes œuvres. Mais j'ai des brebis qui croient en moi, qui sont déjà dans ma main. Et mon mon père et moi, nous avons dans notre main ces brebis, et personne ne pourra arracher ces brebis à la main de mon père, car mon père et moi, nous sommes un.
Crac.
Crac. Alors là, de nouveau, ils prennent des pierres pour le lapider. Ils ont bien compris. Alors il dit, mais pourquoi me lapidez-vous ? J'ai dit, Jésus, quelle œuvre mauvaise ai-je faite pour que vous preniez des pierres pour me lapider ? Ce n'est pas pour une œuvre mauvaise que nous te lapidons, mais c'est parce que, étant homme, tu te fais Dieu.
Voilà.
Voilà. Étant homme, tu te fais Dieu. Et ça, ça a été le nerf de tout le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est qu'il a montré, et il a dit, et il a prouvé, qu'il était Dieu en personne. En personne. Une personne divine. Le mot « personne » en hébreu n'existe pas. Hein. Il a été inventé par suite dans la théologie chrétienne. Et il apporte beaucoup de lumière, surtout sous l'influence de Saint Léon, nous le verrons plus tard. Mais on comprend très bien qu'il se donne, enfin, des attributs divins. Voilà. Et lorsque le Christ est arrêté et comparé devant le Sanhédrin, on cherche contre lui des faux témoins. Et les faux témoins
se contredisent
les uns les autres. Si bien que on ne trouve pas de grief d'accusation. Le grand prêtre alors, qui s'appelait Caïphe, s'est levé dans l'assemblée et il a dit au Christ, es-tu le Fils de Dieu ? Et Jésus a dit, oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme revenir sur les nuées du ciel. Et c'est là que, se tournant vers le Sanhédrin, il a dit, vous avez entendu le blasphème. Le blasphème, c'était que le Christ prétendait à être Dieu, à être Fils de Dieu dans la Trinité.
En Dieu, quoi.
En Dieu. Et il a été condamné pour ce motif. Le motif de la condamnation du Christ, c'est qu'il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et si le Christ n'était pas ressuscité des morts, c'est Caïphe qui aurait eu raison.
Évidemment.
Au point de vue théologique, c'est lui qui aurait eu raison.
Voilà.
Mais du fait que le Christ est ressuscité des morts,
oui,
et qu'il est remonté à la droite du Père, selon le psaume de David, et qu'il reviendra juger les vivants et les morts, vraiment, cette fois, nous savons, à cause de cette résurrection, qu'il n'a pas blasphémé, mais qu'il a dit la vérité. Donc, nous savons maintenant qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. C'est bon.
C'est bon.
C'est le mystère de la Sainte Trinité. Ce qui fait scandale, ce qui a fait scandale, ce n'est pas que Dieu soit Dieu dans la Trinité. Ce n'est pas que le Christ soit revêtu de certaines puissances divines. Mais c'est que le Christ soit Dieu dans un corps humain, dans une nature humaine. C'est ça qui a fait scandale.
Oui. Mais pour les Juifs, quand même, la notion trinitaire de Dieu,
oui,
n'était pas claire.
Elle n'était pas claire, mais
elle était déjà suggérée.
Suggérée par tout l'Ancien Testament.
Oui, 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 oui.
Elohim est un mot pluriel.
Oui, 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 oui.
Elohim est un mot pluriel. Donc c'était suggéré par tout l'Ancien Testament.
Oui, oui, bien sûr.
Mais lorsqu'une personne divine, bon, qu'elle reste dans ces personnes divines là-haut, ça ne dérange personne. Hein, mais qu'une personne divine vienne dans une chair humaine, alors là, c'est insupportable.
Oui, parce que Jésus-Christ était fils de Dieu et il s'appelait en même temps le fils de l'homme.
Le fils de l'homme.
Donc c'est vraiment Dieu incarné.
Dieu incarné.
Voilà.
C'est ça qui a fait scandale. Et nous, chrétiens, nous croyons qu'effectivement Dieu est Trinité, que l'une des personnes divines, le Fils, celui qui est engendré par le Père éternellement, a été engendré temporellement, dans la nature humaine, et qu'à ce moment-là, en fait, il y a eu l'incarnation du Verbe. Il y a une personne divine qui est venue prendre la nature humaine parmi nous et qui nous a fait connaître tous les mystères divins dans sa nature humaine. Voilà.
Alors là, on arrive à la seconde vérité de foi, c'est justement le mystère de l'incarnation. Pourquoi dit-on mystère ?
On dit mystère parce qu'un mystère, dans le langage chrétien, ce n'est pas quelque chose qui est inconnaissable, qu'il faut croire
sans
comprendre. On le disait autrefois, ça, d'une façon paresseuse, d'une façon ridicule. On disait le mystère, c'est quelque chose qu'il faut croire sans comprendre. Non ! Dieu ne nous a jamais demandé de croire quelque chose qu'on ne comprend pas.
Oui, bien sûr.
Parce que ça aurait été indigne de lui.
Oui.
S'il nous a donné l'intelligence, c'est que justement nous puissions comprendre ce que nous croyons. Il faut d'abord, comme je l'expliquais, il faut d'abord évidemment croire sur la parole, comme l'enfant croit à son maître avant qu'il ait pu faire les expériences. Mais une fois qu'on a cru, qu'on a donné un assentiment à un théorème, on peut en suivre la démonstration, et quand la démonstration est faite, non seulement on le croit, mais on le comprend.
Oui.
Un maître dit à ses élèves, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Bon, mais très bien, monsieur, c'est très bien, nous croyons, parce que sans doute que vous êtes plus intelligent que moi, et par conséquent, vous pouvez le dire. On a tendance à vous croire, c'est très bien. Mais
on veut la démonstration.
On veut la démonstration.
Oui, c'est tout à fait normal.
Tout à fait normal.
Alors pourquoi on emploie ce mot de mystère ?
On emploie ce mot de mystère parce que nous sommes comme les enfants qui, avant la démonstration, ne comprennent pas. Et quand ils ont compris, ils veulent en savoir encore davantage.
Oui.
Et tout ce qui a été démontré nous pose de nouvelles questions. Donc nous affrontent en quelque sorte à de nouveaux mystères qui vont s'éclairer progressivement. Ainsi, pour la connaissance de la foi, la raison suit ce cours que plus elle avance, plus elle est contente de comprendre, mais plus elle a encore envie d'approfondir ses connaissances.
En quelque sorte, on ne peut pas faire le tour de Dieu.
On ne peut pas faire le tour de Dieu, comme d'ailleurs on ne peut pas faire le tour de l'univers, qu'on ne peut pas compter toutes les étoiles et qu'on ne peut pas avoir une connaissance absolue des infiniment petits de la matière.
Oui, absolument, voilà.
Voilà,
oui.
C'est ça.
Donc,
le mystère, au fond, c'est quelque chose qui suscite la curiosité et l'admiration. La curiosité, tant qu'on ne comprend pas très bien, et l'admiration, à mesure qu'on comprend de mieux en mieux.
Et on n'aura jamais fini de comprendre Dieu.
Jamais. C'est pour ça que saint Paul dit, j'ai la surconnaissance du mystère du Christ. Voyez comme je comprends, comme j'ai la connaissance du mystère du Christ. Lui qui avait vu le Christ dans sa résurrection sur le chemin de Damas, et qui ayant été ébloui par cette vision, une vision qu'il a eue, cette vision qui renversait toutes sortes d'idées qu'il avait dans la tête, qui n'étaient encore que des idées, comment dirais-je, provisoires, en quelque sorte. Il s'est retiré pendant 3 ans en Arabie pour méditer, pour approfondir cette connaissance qu'il avait reçue de Jésus-Christ. Et toute sa vie, il a continué de l'approfondir. Et on le voit très bien que quand on lit l'Épître aux Corinthiens, qui a été écrite une des premières, ou les Thessaloniciens, et quand on arrive à l'Épître aux Éphésiens, ou l'Épître aux Philippiens, on voit à quel point saint Paul a progressé dans la connaissance du mystère.
Mmh.
Voilà.
Avant d'aborder le second article de foi qui concerne le mystère de l'incarnation, je pense qu'il y a encore quelque chose de très important à dire concernant le mystère de la Sainte Trinité. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure en disant que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de la Sainte Trinité. Alors, quelle est cette image ? Où se trouve cette image de la Sainte Trinité en l'homme ?
En l'homme. Et c'est là justement que la théologie a suivi des pistes qui n'ont pas abouti. On a voulu voir, vous trouverez ça dans saint Thomas d'Aquin, dans Guillaume de Saint-Thierry, dans différents théologiens du Moyen-Âge, on a voulu dire que l'homme est image et ressemblance de la Sainte Trinité parce que dans l'homme, c'est-à-dire dans un individu, qu'il soit homme ou femme, eh bien, il y a la raison, il y a le cœur et la sensibilité. Ah, voilà. Où il y a l'âme, l'esprit et le corps. Oui, voilà, encore une sorte d'image de la Trinité. Et on peut ainsi, il y a l'intelligence, la volonté, la sensibilité, voilà. Bon. Alors, on a évoqué toutes sortes de triades, en quelque sorte, qui se trouvent dans l'homme, qu'on peut plus ou moins inventer, mais enfin, on peut ajouter des tas de choses, bien entendu, et pour essayer de trouver où était cette image et ressemblance. Et ce n'est pas ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme selon son image et sa ressemblance. Il le créa homme et femme, mâle et femelle. Ce qui signifie que la véritable image de la Sainte Trinité, ce n'est pas l'homme individu, mais c'est le couple humain, homme et femme, mâle et femelle, qui porte l'image et la ressemblance de la Trinité. En effet, dans le deuxième récit du deuxième chapitre de la Genèse, où l'auteur montre, Dieu, c'est Dieu l'auteur, hein, montre que Dieu créa d'abord Adam, l'homme, il le fit de ses mains, l'ouvrage modelé, avec la poussière du sol, et l'ayant créé ainsi, l'ayant façonné, c'est-à-dire que le corps humain contient tous les éléments de la matière, tous les éléments de la matière, les 92 éléments sont dans le corps humain, mais ils ne sont pas placés n'importe comment, ils sont agencés avec une géométrie extraordinaire dans les cellules vivantes, et la science moderne, avec tous ses instruments, microscopes électroniques, est en train de se rendre compte, avec une évidence surprenante, que le chef-d'œuvre de Dieu, c'est le corps. C'est le corps humain avec ses organes, et surtout avec le cerveau, qui a des capacités de mémoire et d'intelligence phénoménales, et dont nous ne pouvons utiliser pour l'instant qu'une très faible partie. Donc voilà le corps humain, chef-d'œuvre de Dieu. Ayant fait le corps, Dieu souffla dans l'homme, dans les narines de l'homme, il souffla son esprit, son souffle.
C'est l'Esprit Saint.
C'est l'Esprit Saint. Quand Dieu a créé l'homme comme étant une espèce d'ordinateur extrêmement puissant, il a programmé l'ordinateur avec son Esprit Saint et lui a donné la connaissance. Mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire l'individu, l'homme, le mâle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et alors, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et pendant que l'homme dormait, il prit une des côtes de son corps, et de cette côte, de cet os, il façonna une femme.
Est-ce que c'est le mot « côte » en hébreu ?
Oui, c'est le mot « côte » en hébreu. Mais en hébreu, quand il s'agit de l'os, les os, ça correspond, si vous voulez, à ce qu'il y a de plus profond et de plus solide dans la nature humaine. Il a pris l'intimité de la nature humaine dans ses profondeurs, jusqu'à la moelle des os, et avec le corps de l'homme, il a façonné le corps de la femme. Ce qui signifie que la femme est engendrée de l'homme, c'est-à-dire qu'elle est de la même nature que l'homme. Elle n'est pas seulement façonnée, mais elle est engendrée. Il y a donc une génération de la femme par l'homme, comme il y a une génération dans la Trinité.
Du Fils par le Père.
Du Fils par le Père.
C'est ça l'image et la ressemblance de Dieu.
C'est la ressemblance, c'est la ressemblance de la génération céleste qui se fait tout de suite par le fait que la femme est engendrée de l'homme. Voilà. Et cette œuvre de création de l'homme et de la femme ayant été réalisée, Adam pousse un grand cri de joie en disant « Celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. » Cette fois, il a trouvé l'aide qui lui est semblable et qui va lui permettre d'atteindre. Elle est aide. Pourquoi aide? Non pas pour s'occuper des soins du ménage, ou pour s'occuper, comme dans certaines civilisations, de toutes les corvées possibles. Non, mais elle est aide parce que c'est la femme qui va permettre à l'homme d'atteindre l'image et la ressemblance de la Trinité. Cette fois, là, l'ouvrage est achevé. Et Dieu dit, ayant fait cet ouvrage, il vit que tout était très bon. Il se reposa parce que son ouvrage était achevé. C'est-à-dire qu'ayant créé la femme, ou plutôt engendré la femme à partir de l'homme, il a achevé son ouvrage. Et les œuvres de Dieu sont achevées dès l'origine. Donc, au principe, il y a une création parfaite de la créature humaine.
Si bien qu'on peut parler de la Trinité créée.
Voilà. Trinité créée, image et ressemblance de la Trinité créatrice. Et de même que le Saint-Esprit est le lien de connaissance et d'amour dans la Trinité créatrice entre le Père et le Fils, de même, le Saint-Esprit sera le lien de connaissance et d'amour entre l'homme et la femme. C'est ainsi que l'unité du commencement est établie à l'image et ressemblance de l'unité qu'il y a dans la Trinité créatrice. Les œuvres de Dieu sont achevées dès l'origine, dit l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire qu'au commencement, tout est parfait. Et d'ailleurs, c'est ce que la science démontre, c'est que, au cours des générations successives, il y a eu des mutations génétiques qui ont altéré progressivement la perfection de l'origine. Mais nous en reparlerons lorsque nous parlerons de la génération.
Je crois que Saint Luc, dans son évangile, parle d'Adam, fils de Dieu.
Oui, parfaitement. Adam, fils de Dieu. Il le dit dans la généalogie du Christ, où il dit d'abord Jésus, fils de Dieu, fils de, jusqu'à Adam, fils de Dieu. C'est-à-dire que la filiation divine était donné à Adam au moment où il a reçu l'Esprit-Saint.
Oui.
Adam n'est pas seulement une créature de Dieu, il est fils de Dieu.
Mais est-ce qu'il est fils de Dieu comme Jésus-Christ était fils de Dieu?
Eh bien, il était fils de Dieu comme Jésus-Christ est fils de Dieu dans sa nature humaine. Jésus-Christ est fils de Dieu dans sa divinité parce qu'il est le Verbe éternel de Dieu, engendré éternellement. Mais quand il a pris la nature humaine pour nous faire la démonstration de la vérité, selon la parole de Saint Jean, je suis né, c'est Jésus-Christ qui parle à Pilate, je suis né et j'ai été engendré en ce monde pour porter témoignage à la vérité. Il a porté témoignage à la vérité dès sa conception et dès sa naissance, comme fils de Dieu. Dans la nature humaine, Jésus-Christ est fils de Dieu parce qu'il a été conçu du Saint-Esprit. C'est l'Esprit-Saint qui a fait Adam fils de Dieu au début, et c'est l'Esprit-Saint qui a fait que Jésus-Christ, dans sa nature humaine, est fils de Dieu.
Oui.
Donc, l'homme véritable, pour qu'il soit vraiment dans sa définition et son identité pleine, il n'est pas seulement une créature de Dieu. Il est fils de Dieu. Et ce qui va être très grave, dans le cas du péché originel que nous étudierons plus loin, c'est que l'homme, ayant transgressé la loi de Dieu, a perdu la filiation divine. Et il n'est devenu à ce moment-là qu'une créature de Dieu.
Oui, c'est très grave.
Et il y a un abîme entre une simple créature de Dieu et un fils de Dieu, parce que le fils de Dieu, il participe à la nature divine. D'ailleurs, c'est ce que dit saint Pierre en parlant du baptême qui nous a restaurés dans la filiation divine. Nous sommes devenus consorts, nous sommes venus communicants de la divinité par la filiation divine. Si l'homme n'est pas relié à Dieu par la filiation, il n'est qu'une créature de Dieu, c'est-à-dire un animal supérieur, qui sera intelligent, sans aucun doute, qui pourra faire des raisonnements de toutes sortes, même des raisonnements très sophistiqués pour fabriquer des bombes atomiques, mais il reste au rang des animaux.
Oui.
Il est privé de la filiation.
Le plus grand des mammifères supérieurs.
Le plus grand des mammifères supérieurs. Et qui devient, bien entendu, le plus dangereux des mammifères supérieurs, car quand il est armé, il peut faire des désastres. Voilà la gravité d'avoir perdu la filiation divine. Et finalement, tout le but de la rédemption, que nous verrons plus tard, c'est de rendre à la créature humaine la filiation divine qu'elle a perdue par le péché. Donc, dans l'œuvre de Dieu qui a créé l'homme et qui l'a élevé à la filiation, il faut retenir justement qu'il est fils de Dieu, que la femme aussi est fille de Dieu, et que l'homme et la femme ensemble sont l'image et la ressemblance de la Trinité créatrice. À ce moment-là, nous sommes sur des bases indestructibles et nous pouvons établir la créature humaine dans sa vraie nature et dans sa véritable identité. D'ailleurs, on se rend compte que les religions multiples qui croient en Dieu, même un seul Dieu, un Dieu très grand, Allah, le Tout-Puissant, le tout ce que vous voudrez, mais un Dieu solitaire, qui n'est pas Trinité, qui n'est pas un échange d'amour et de connaissances mutuelles.
En lui-même.
Ces civilisations construites sur ces idoles aboutissent nécessairement à l'adultère, c'est-à-dire à la division de l'homme et de la femme, même s'ils vivent ensemble. C'est-à-dire que l'homme, à ce moment-là, domine la femme.
Parfois l'inverse.
Et parfois l'inverse, c'est le matriarcat. On a donc des sociétés patriarcales et matriarcales, ou matriarcales, mais où l'unité du couple n'est pas restaurée.
Mais est-ce que l'Église a bien vu cette unité du couple comme image de la Trinité créatrice ?
Hélas, non.
Mal.
L'Église, dans son ouvrage de sanctification jusqu'à nos jours, s'est contentée de la sanctification personnelle des individus en les encourageant, en leur permettant d'atteindre les vertus évangéliques individuellement, mais on n'a pas restauré l'unité du couple. On n'a pas de théologie qui permette de faire l'unité du couple.
C'est encore à venir
et ça sera le royaume. Dans le royaume de Dieu, nous n'aurons pas des individus séparés, mais nous aurons des couples parfaitement unifiés dans l'Esprit Saint. Comme le dit saint Paul, dans le Christ Jésus, il n'y a pas d'homme sans femme, ni de femme sans homme dans le Christ. La conclusion de cet enseignement sur la Sainte Trinité et sur son image et ressemblance réalisé dans le couple humain, la conclusion, c'est que Dieu, le vrai Dieu, la Sainte Trinité, est infiniment bon, infiniment heureux et infiniment aimable. Et nous comprenons alors l'insistance avec laquelle Moïse, surtout dans le Deutéronome, prescrit le plus grand est le premier des commandements. Écoute Israël, tu Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Parce que c'est là qu'est ta vie. Ta vie dépend de l'amour que tu auras pour Dieu. Et ce commandement de Moïse a été repris plusieurs fois dans l'Évangile, notamment lorsque les pharisiens et les scribes interrogeaient le Seigneur pour le scruter, pour savoir ce qu'il avait dans l'esprit. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus a répondu, ce commandement de Moïse, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et le commandement qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont contenus toute la loi et toutes les prophètes, et tous les prophètes.
Le prochain, dans le cas du couple, oui, c'est la femme pour l'homme et l'homme pour la femme.
Absolument. Absolument. Et c'est pourquoi, lorsque le péché originel a été commis, hélas, la rupture a été faite dans le couple. C'est la première conséquence. Adam s'est retourné contre la femme en l'accusant, alors qu'il aurait dû se repentir. Si bien que l'humanité a vécu, non pas dans l'unité de l'homme et de la femme, mais dans la division, dans la désunité, si on peut dire, dans l'adultère. Et c'est le reproche que notre Seigneur faisait à ses contemporains et qui porte aussi sur nous, génération adultère et pécheresse adultère, jusqu'à quand vous supporterez-je? La réalisation de l'unité du couple dans la foi à la Sainte Trinité et sous la mouvance de l'Esprit-Saint réalise la pensée de Dieu sur l'homme dès le commencement, la pensée originelle. Et c'est pourquoi le Christ, prévoyant les temps du royaume, prie pour que cette unité se réalise enfin en disant « Père, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un », c'est-à-dire l'unité de deux personnes dans l'Esprit-Saint. Et c'est alors que le monde croira que tu m'as envoyé. Effectivement, lorsque les chrétiens présenteront au monde des couples unifiés, parfaitement heureux, et qui courront vers l'accomplissement des promesses, à ce moment-là, tout le monde sera d'accord. Et nous aurons la réalisation de la pensée de Dieu sur la terre.
Mais alors, pourquoi est-ce que l'Église a eu un clergé célibataire, alors que la pensée de Dieu, c'était justement l'union de l'homme et de la femme, image et ressemblance de lui-même?
C'est évidemment le grand scandale, le grand problème. Car, dans son testament, saint Paul prescrit que ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés, c'est-à-dire le diacre, le prêtre et l'évêque, doivent être hommes d'une seule femme et qu'ils sachent bien diriger leur maison, parce que celui qui ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il diriger l'Église de Dieu? Si bien que ce célibat des prêtres est une transgression de la pensée apostolique.
Oui.
Alors, pourquoi donc est-ce que malgré la prescription de saint Paul, c'est le célibat qui s'est imposé?
Oui.
Et il y a trois raisons à cela. Il y a une raison philosophique qui vient de la pensée grecque. Dans le monde grec, la femme était très méprisée, beaucoup plus que dans le monde juif. Et l'idéal grec, c'était l'homme, le mâle, beau et bon,
Kalos kagatos.
Le kalos kagatos, qui pratiquait une philosophie, une conduite stoïcienne, c'est-à-dire qui savait réprimer ses désirs et qui atteignait un certain bonheur, une certaine gloire dans sa beauté de mâle. Voilà. Cette pensée grecque, qui était aussi dualiste, s'est infiltrée dans la pensée des pères grecs, notamment dans Origène, par exemple, qui a eu une grande influence sur tous les pères grecs. La deuxième raison, c'est une raison juridique. Parce que lorsque l'Église, échappant enfin aux persécutions, s'est incrustée dans le monde romain, elle s'est en quelque sorte calquée sur l'administration romaine. Et les diocèses, qui étaient des circonscriptions civiles, les diocèses ont été administrés par un évêque, et comme ces diocèses étaient aussi sous l'administration d'un général qui assurait l'ordre et la police, et que dans la légion romaine, les gradés de la légion romaine, même les soldats, devaient garder le célibat. Pourquoi ? Pour être ad nutum imperatoris, c'est-à-dire pour rester aux ordres de l'empereur. Et si on avait besoin de déplacer l'armée, il ne fallait pas que les soldats traînent avec eux leurs femmes et leurs gosses. Par conséquent, c'était clair. Si vous étiez dans l'armée ou dans la police romaine, dans la légion romaine, il fallait être célibataire. C'était une condition primordiale. Par conséquent, puisqu'il y a eu cette connivence entre l'administration romaine et l'Église, le droit romain est rentré dans l'Église. Oui. Et le droit canon, d'ailleurs, garde toujours des prescriptions qui sont issues du droit romain et de l'esprit du droit romain. C'est pourquoi les évêques, pour être agréables à l'empereur et pour être conformes, si on peut dire, à l'état civil de leur temps, ont gardé le célibat. La troisième raison, et probablement la plus importante, c'est que on a vu tout de suite dans l'Église que ce qui était important, c'était de garder la chasteté.
Je crois que dans l'Église, on a toujours fait le vœu de chasteté et non pas le vœu de célibat.
Et non pas le vœu de célibat. On a fait le vœu de chasteté. Et ceux qui étaient appelés aux ordres sacrés devaient s'engager à ne pas transgresser le saint virginal et à garder le célibat, non pas le célibat, mais la chasteté. Pourquoi ? Parce qu'ils devaient témoigner par leur vie même que le Christ était né d'une vierge et que le Christ lui-même avait été un homme chaste. Donc, l'imitation du Christ et de la Vierge dans un esprit de foi comportait l'engagement de la chasteté.
Et ça a paru peut-être plus simple de vivre en célibataire en gardant la chasteté,
oui,
plutôt que de vivre en couple en gardant la chasteté.
Et oui, c'est ça. Ça a paru plus simple. En réalité, c'est pas plus simple, c'est beaucoup plus difficile.
Alors, après le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation.
Oui. C'est le deuxième grand mystère de la foi catholique. Le mystère de l'incarnation, Dieu s'est fait homme. Incarnatus est, de Maria Virginie, factus est homo, etc. C'est le centre du credo. Le centre du credo, c'est le mystère de l'incarnation. Alors ce mystère a été défini du point de vue dogmatique d'une façon parfaite à partir de Saint Léon. Ça ne veut pas dire que...
Saint Léon, c'est quel siècle ?
C'est le début du 5e siècle, hein, Saint Léon le Grand. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire que la foi en l'incarnation a commencé avec Saint Léon.
Oui.
Elle a commencé avec les apôtres, tout de suite, avec l'Évangile. C'est l'Évangile lui-même. Et on peut retenir sept textes principaux, sept textes sur lesquels les docteurs de la foi se sont appuyés pour préciser le dogme de l'incarnation. Le premier de ces textes, c'est le commencement de l'évangile. L'évangile de Saint Matthieu, qui commence par ces mots, « Livre de la génération de Jésus-Christ ». Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et à partir de là, Saint Matthieu nous décline tous les principaux ancêtres de Jésus-Christ. Abraham engendra, etc. On arrive jusqu'au père de Joseph, Jacob engendra Joseph. Joseph, l'homme de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, appelé Christ. Ça y est. Et tout de suite, Saint Matthieu, pour s'opposer à toutes les générations précédentes, dit « Quant à la génération de Jésus-Christ, elle fut ainsi. » Et il nous explique que cet enfant, Jésus, ne sera pas conçu de la semence de Joseph, mais sera conçu du Saint-Esprit. Voilà. Et il mérite le nom de Fils de Dieu parce qu'il est conçu du Saint-Esprit. C'est le premier chapitre de Saint Matthieu que nous n'allons pas ici expliquer en détail, mais qu'il est facile de trouver dans l'Évangile, puisque c'est le commencement de l'Évangile. Le deuxième texte très important, c'est le premier chapitre de Saint Luc. Alors ce premier chapitre nous raconte d'abord la nativité de Saint Jean-Baptiste, texte très important. Et ensuite, il nous raconte la nativité, non pas la nativité, mais la conception de Jésus-Christ. Et c'est là que, texte très célèbre, l'évangile du Missus, l'ange Gabriel, a été envoyé à une vierge mariée à Joseph de la maison de David, etc. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » La Vierge Marie s'étonne de cette salutation, plus exactement, elle se demande d'où vient cette salutation, d'où vient-elle? Est-ce que c'est un ange qui vient de Dieu ou c'est un ange qui est sorti des enfers et qui s'est déguisé en ange de lumière? Alors, quand l'ange lui énonce les Écritures, elle lui dit « Maintenant, c'est toi qui vas concevoir et enfanter un fils, bon, qui sera le fils de David, qui aura toutes les qualités, toutes les prophéties, etc. » L'ange Gabriel aligne toutes les Écritures et la Vierge Marie pose la question. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas l'homme? La plupart des prédicateurs disent que la Vierge Marie a dit oui à l'ange Gabriel. On dit fiat, elle a dit le fiat, elle a dit oui. Eh bien non, elle n'a pas dit oui.
Pas tout de suite.
Elle a d'abord posé une question pour scruter l'ange, pour voir ce qu'il avait dans la tête. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas l'homme?
Et connaître ici, c'est dans le sens hébraïque du terme.
C'est-à-dire, je ne veux pas m'accoupler avec un homme.
Pourtant, elle avait Joseph.
Elle connaissait Joseph comme son époux, puisqu'elle était mariée à Joseph.
Dans les traductions, on lit fiancée.
Fiancée? Pourquoi? Parce qu'on veut justement éviter de faire croire que, par le mot « marié », Joseph et Marie étaient dans une voie charnelle, c'est-à-dire dans un mariage ordinaire, comme on dit, ordinaire, bon, tout le monde se marie, tout le monde s'accouple et tout le monde a des enfants. Alors, pour éviter la confusion, on a mis « fiancé ». Mais non, le texte grec, c'est bien « marié », « desponsata » en latin.
Oui.
Voilà.
Emnestemene en grec.
Emnestemene. Ça veut dire confier à la mémoire de Joseph. Elle était donc bien son épouse. Elle avait donc posé le vœu de virginité, comme tous les pères de l'Église l'ont enseigné. Et ce vœu de virginité avait été agréé par Saint Joseph parce que, dans le livre des Nombres, il est dit ceci, que lorsqu'une femme fait un vœu, le vœu n'est valide que si son mari l'approuve.
Oui.
Donc, ils étaient tous les deux dans l'attitude de virginité pour consacrer à Dieu leur corps.
Peut-être que Marie a été aidée dans ce vœu de virginité par la prophétie d'Isaïe annonçant l'Emmanuel.
Bien entendu. Il y avait la prophétie d'Isaïe qui est au centre de l'Ancien Testament et qui annonce que l'iniquité du monde va disparaître lorsque la Vierge concevra et enfantera un fils. À ce moment-là, Dieu sera avec nous.
La Vierge, alors.
La Vierge. De fait, si Adam et Ève avaient eux aussi obéi au commandement primordial de Dieu, Ève aurait conçu un fils d'en haut qui aurait été le premier-né de toute créature.
Oui.
Mais il a fallu attendre 4000 ans pour que le premier-né arrive. Tous les autres, c'est nul. Tous les autres sont voués à la corruption du tombeau, ils ont tous disparu. Le premier-né est arrivé avec la génération virginale. Donc Marie et Joseph avaient posé ce vœu de virginité. Et c'est ce vœu qui a été agréé par Dieu. Saint Paul dit en effet, « Lorsque la foi est venue en ce monde, Dieu a envoyé son Fils engendré de la femme. »
Donc la foi pour Marie, ça a été de croire qu'elle pourrait concevoir d'en haut.
Exactement. L'acte de foi, c'est pas autre chose. Lorsque, en effet, dans l'Épître aux Romains, Saint Paul explique que l'homme doit être justifié par la foi, il nous donne en exemple Abraham. Abraham, dont la foi a été de croire que Dieu lui donnerait un fils directement d'en haut, alors qu'il était avancé en âge, et alors que sa femme avait été complètement stérile pendant toute sa vie, qu'elle avait 90 ans, et qu'elle était maintenant trop vieille pour avoir un fils. Par conséquent, la foi d'Abraham, par laquelle il a été justifié aux yeux de Dieu, c'est qu'il a cru à la promesse que Dieu lui donnerait un fils contre toute espérance humaine.
Et Joseph et Marie, ça a été la même chose.
Et ils se sont bien entendu inspirés de l'exemple d'Abraham.
Oui, aussi.
On aurait bien aimé que Paul dise dans cet épître aux Romains, c'est cet exemple d'Abraham qui a permis à Joseph et à Marie de poser l'acte de foi qui nous a donné le Christ. Il n'a pas jugé bon de le mettre. Peut-être l'a-t-il mis et puis le texte a-t-il été effacé par un scribe malheureux. Mais enfin, j'en sais rien. C'est ça. Dans l'acte de foi, c'est de croire que Dieu peut donner un fils d'en haut directement et manifester ainsi sa paternité.
Marie a-t-elle pensé qu'elle allait enfanter non seulement un fils de Dieu, comme pouvait l'être Isaac pour Abraham, mais le Verbe de Dieu?
Alors là,
Dieu ne peut pas laisser ses créatures dans l'ignorance de ses desseins.
Ah oui, c'est exact.
Surtout quand on est personnellement impliqué.
Oui, mais justement, il y avait aussi dans l'Écriture sainte des textes qui annonçaient que Dieu lui-même allait venir. « Je viendrai moi-même être le pasteur de mon troupeau. » C'est dans Ézéchiel. « C'est moi qui viendrai paître mon troupeau. » Moi, c'est Dieu, c'est Yahvé qui parle.
Oui.
Et il y avait aussi un psaume que l'Église chante justement pour les fêtes de la Vierge Marie et de Saint-Joseph. Le psaume dans lequel « Voici qu'il arrive le roi de gloire, ouvrez-vous portes éternelles, qu'il fasse son entrée le roi de gloire. » Le roi de gloire, c'est Dieu lui-même.
D'ailleurs, le psaume dit « c'est Dieu lui-même ».
C'est Dieu lui-même. C'est lui le vaillant, le Dieu vaillant, le Dieu vivant, le Dieu vivifiant qui vient lui-même en personne. C'était dans le psaume. Par conséquent,
il connaissait tout ça.
Il connaissait, et d'autres textes encore, n'est-ce pas, et d'autres textes qui pouvaient les guider vers l'idée que le Messie attendu,
oui,
ne serait pas seulement un fils de Dieu, c'est-à-dire un enfant conçu comme Isaac avait été conçu, mais que ce Messie serait Dieu lui-même, la sagesse divine qui viendrait, qui viendrait achever son ouvrage sur la terre et se réjouir parmi les enfants des hommes. Si on prend les textes de l'Ancien Testament, on est conduit nécessairement à penser que l'incarnation était déjà annoncée par les prophètes. C'est pourquoi la Vierge Marie, par cette parole, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas l'homme, instruite qu'elle est par les prophètes, elle met l'ange à l'épreuve pour voir si cet ange va être d'accord avec les Saintes Écritures qui nous indiquent la pensée de Dieu. Et alors l'ange répond, l'Esprit Saint viendra sur toi, ce qui signifie l'Esprit Saint te fécondera, au sens strict du mot. L'Esprit Saint te fécondera, et c'est pourquoi le Fils qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ça y est, il mérite vraiment le nom de Fils de Dieu. Alors, quand la Vierge Marie voit que l'ange Gabriel est d'accord avec toute l'espérance d'Israël, avec les indications prophétiques, alors elle dit cette fois, oui,
fiat,
qu'il me soit fait selon ta parole. Mais même avant qu'elle ait dit cette parole, l'ange Gabriel lui donne un signe, alors qu'elle n'en avait pas besoin, et lui dit, voici que ta cousine Élisabeth, elle aussi, a conçu un fils dans sa vieillesse. Par conséquent, si une femme avancée en âge peut concevoir un fils miraculeusement, à plus forte raison une vierge.
Oui.
Et la Vierge Marie dit, cette fois, qu'il me soit fait selon ta parole.
Ça y est.
Car aucune parole n'est impossible à Dieu. Voilà, ça y est. Pour que la parole devienne possible, il faut que la parole soit écoutée, comprise et appliquée. Le troisième texte très important sur lequel s'appuie notre foi en l'incarnation du Verbe, c'est le prologue de Saint Jean, premier chapitre de Saint Jean. Il commence tout de suite en nous montrant la gloire de la seconde personne de la Sainte Trinité, le Verbe de Dieu, auprès du Père. Au commencement, dit-il, au principe, le Verbe est auprès du Père, le Logos, le Verbe. Le mot Logos signifie la raison créatrice, c'est-à-dire l'intelligence créatrice du monde. Le Logos est auprès du Père. Et le Verbe, le Logos, est Dieu. Et Dieu auprès du Père. Et c'est cet homme, enfin, c'est cette personne divine, qui est venue dans la chair, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Nous ne pourrons pas, évidemment, reprendre ici toutes les paroles du prologue de Jean, ça serait trop long. Mais c'est bien, donc, l'identité de Jésus-Christ, son identité profonde, c'est qu'il est le Verbe de Dieu lui-même, qui s'est fait homme.
S'est fait homme, là.
Qui est venu habiter parmi nous comme homme.
Là, c'est incontestable. Là.
Incontestable. Et c'est ainsi qu'il nous a manifesté le secret de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, dit-il. Mais c'est le Verbe monogène de Dieu, celui qui est engendré éternellement auprès de Dieu, c'est lui qui est venu nous mettre sur la voie, qui nous a montré la voie. C'est là que nous retrouvons la parole de notre Seigneur qui se définit lui-même auprès des apôtres lorsqu'on les apôtres confessent « Oui, nous savons que tu es sorti de Dieu. » Il leur dit « Je suis la voie, la vérité et la vie. » La voie qui conduit à la vérité par laquelle vous aurez la vie. C'est-à-dire la suppression de toutes ces sentences de malédiction, de souffrance et de mort qui sont tombées sur l'humanité depuis qu'Adam et Ève ont transgressé la pensée de Dieu. Le Christ vient restaurer la pensée du Père. Je suis la voie, la vérité et la vie. Vous voulez avoir la vie? Suivez l'exemple que je vous ai donné. Écoutez le témoignage que je vous ai donné. Voilà donc ce prologue de Jean sur lequel s'appuie notre foi en l'incarnation du Verbe. Le quatrième texte sur lequel s'appuie notre foi, c'est le début de l'Épître aux Romains, où saint Paul dit, moi, Paul, mis à part pour un ministère divin, et pour annoncer dans le monde l'évangile de Dieu. L'évangile. Et il donne ici tout de suite l'évangile de Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ. L'évangile, c'est Jésus-Christ, qui est fils de David, selon son origine, selon sa lignée hébraïque. Il est fils de David. Mais il a été manifesté fils de Dieu par l'esprit de sainteté, en raison de sa résurrection d'entre les morts. Maintenant, nous avons, par la résurrection du Christ, que saint Paul a vu de ses yeux, nous avons la certitude que Jésus est fils de Dieu par l'esprit de sainteté, c'est-à-dire qu'il a été conçu par l'Esprit Saint.
Oui, sa résurrection démontre non seulement qu'il est fils de Dieu dans la nature humaine, mais qu'il est l'égal de Dieu, puisque c'est ce qu'il a dit dans sa prédication.
C'est ce que Jésus a dit dans sa prédication, puisque les autorités d'Israël l'ont condamné parce qu'il se faisait l'égal de Dieu.
Voilà.
Or, celui qui se faisait l'égal de Dieu avait blasphémé. Et voici que le blasphémateur ressuscite d'entre les morts.
Voilà, donc il a raison.
Donc tout son témoignage est bon.
Voilà.
Voilà. Et quand saint Paul a vu la gloire de Jésus-Christ dans sa résurrection, il n'a pas hésité sur la nature divine du Christ. Comme il le dit dans le cinquième texte qu'on peut invoquer, dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. Le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens est un hymne poétique à la grandeur du Christ, à la primauté du Christ, qui est le roi de l'univers, dans lequel sont rassemblées toutes les créatures. Il a la primauté divine sur l'univers et sur toute l'histoire, et sur tout le plan de la rédemption.
Saint Paul dit, le Christ en qui réside toute la plénitude de la divinité.
Voilà.
C'est très fort.
Le Christ en qui réside toute la plénitude de la divinité. Et il y a un sixième texte qui est d'une importance extrême. C'est le prélude, le prologue plutôt, de l'Épître aux Hébreux. Dieu nous a parlé autrefois, de nombreuses manières, par les prophètes. Et dans ces derniers temps, il nous a parlé en Fils. Ce Fils dans lequel il a créé l'univers. Le Fils qui porte l'empreinte de la substance divine. Donc, cette Épître aux Hébreux, dans son prologue, elle montre la supériorité du Christ, non seulement sur Moïse, mais sur les anges. Il est vraiment Dieu avec le Père. Et c'est lui qui est venu nous instruire. Et l'Épître aux Hébreux poursuit, d'ailleurs, un peu plus loin, dans le chapitre 2, et il dit aux auditeurs, « Prenez bien garde !» Parce que autrefois la loi qui avait été promulguée par les anges était sanctionnée par des peines sévères pour ceux qui la transgressaient.